Eh bien, bonjour à tous et chacun. On est bien content de vous revoir ce matin. Il y a quelques années, d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé un peu, mais il y a quelques années, j'étais impliqué dans une maison d'édition chrétienne. Et puis, comme réunion, deux des membres restaient à Paris, puis pas loin de Paris. Donc, il a fallu malheureusement avoir une réunion à Paris. Donc, toutes dépenses payées, aller là-bas. Sinon, écoute, c'est dur, la vie, c'est ça, la misère. Bien, qu'est-ce que tu veux? Alors, on est allé là-bas à Paris, puis j'étais avec ma femme. Et puis, on a eu quand même quelques heures pour faire les touristes. Alors, on a commencé à se promener un petit peu. Et puis, le guide, dans le fond, c'était un pasteur de Paris, à Montrouge, François Forchelet. Il nous a amenés à différentes places, dont le château de Versailles. Maintenant, vous connaissez probablement le château de Versailles. On a étudié ça au secondaire et tout ça. Mais je vous dis, quand vous êtes là, c'est pas mal impressionnant. On raconte, ça a été construit pas mal par Louis XIV, le roi Louis XIV, et on raconte que si on devait reconstruire aujourd'hui ce palais, ce château, il en coûterait autour de 31 milliards. C'est assez phénoménal, écoutez bien les chiffres ici. Il y a 2153 fenêtres, 700 chambres, 60 escaliers, 1200 foyers, 5000 meubles, et vous voyez le jardin, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a plus de 400 sculptures dans le jardin et 1400 fontaines. Assez phénoménal. C'est donc le roi Louis XIV qui a fait construire à cette ampleur-là, car il voulait déménager le gouvernement finalement français à Versailles. Pourquoi si beau? Bien, le roi Louis XIV voulait un palais qui allait refléter la gloire de son règne. C'est tellement grand qu'on raconte que le roi Louis XIV mangeait toujours ses repas froids. Pourquoi? Parce que la distance entre la cuisine et la salle à dîner était tellement grande que même s'il y avait des centaines de serviteurs qui travaillaient à la cuisine, ils n'étaient pas capables d'emmener la nourriture jusqu'à Louis XIV, un repas chaud. L'une des principales pièces, évidemment, s'intitule la Galerie des glaces. 3000 chandelles, 357 miroirs vénitiens. D'ailleurs, le roi Louis XIV s'est lui-même donné comme titre le Dieu Soleil. Il croyait littéralement que tout tournait autour de lui. D'ailleurs, il a fait placer un peu partout dans le château des symboles du soleil pour que tous se rappellent que tout tourne autour de lui. Sa chambre était au centre du palais, afin que tous se rappellent et considèrent qu'il était le centre de tout. D'ailleurs, dans la salle à dîner, il n'y avait qu'une seule chaise. Pour lui, ses invités s'assoyaient à terre pour que tout le monde le regarde en haut. Il allait à la messe tous les matins, mais il a demandé à ce que, lorsqu'il arrive à la messe, tous ceux qui étaient présents là-bas déclarent à haute voix, « Le roi arrive !» lorsqu'il entrait dans la pièce. Hey, quel contraste, hein? Quel contraste avec le roi des rois, Jésus-Christ. Pas vrai? Incroyable. Ce matin, on va commencer une nouvelle série dans le livre de Marc. Et cet évangile va nous faire connaître Jésus. Maintenant, il y a certaines personnes qui font l'erreur en regardant les quatre évangiles. Vous savez, il y a quatre évangiles qui racontent l'histoire de Jésus. Vous avez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et il y a des gens qui regardent cela comme si c'était une biographie. Mais il faut se rappeler que les évangiles ne sont pas des biographies qui racontent la vie en détail, de manière chronologique, la vie de Jésus. C'est l'erreur que les gens font parce qu'il y a des gens qui critiquent, ils disent « Hey, il manque des morceaux, c'est pas pareil, ils disent pas la même chose. » Et là, ils vont commencer à critiquer l'inspiration, ils mettent en doute l'inspiration des Écritures. C'est juste qu'ils ne comprennent pas le genre littéraire des évangiles. Les évangiles les auteurs vont choisir des épisodes dans la vie de Jésus, des épisodes dans le ministère de Jésus, selon l'auditoire à qui ils s'adressent et selon le but que les auteurs ont. Par exemple, juste l'Évangile de Jean va couvrir l'équivalent d'à peu près une trentaine de jours de la vie de Jésus. D'autres ont beaucoup plus de détails que cela, mais ça dépend toujours du but de l'auteur et à qui il s'adresse, qu'on appelle les destinataires. Ce n'est pas une biographie comme si on allait acheter une biographie de Justin Trudeau. Ce n'est pas la même chose. Par exemple, Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament, va écrire à des Juifs, ce sont les destinataires, et dans le but de montrer aux Juifs que Jésus est bel et bien celui tant promis dans les centaines de prophéties qui ont été données des siècles avant dans l'Ancien Testament, que Jésus est bel et bien le roi et il est bien, bel et bien le Messie tant attendu parmi les Juifs. On va donc retrouver quelque chose d'unique dans le livre de Matthieu. Et son livre n'est pas chronologique. Il n'y a aucune intention, Matthieu, de mettre les événements et les histoires de Jésus d'une manière chronologique. Il va regrouper des choses ensemble comme un livre qui a un thème. Et le thème, c'est que Jésus est le Messie. Il combine des histoires qui vont se dérouler au cours de la vie de Jésus. Après ça, ça sera suivi d'un discours, d'un enseignement. Après ça, certains événements dans la vie de Jésus. Et après ça, des enseignements. Et il y a plusieurs discours à travers, parsemés à travers le livre, collés à certains événements de Jésus-Christ. Matthieu, qui va démontrer que Jésus est le Juif et qu'il réalise toutes les prophéties à l'endroit du Messie qui était à venir et qu'on l'attendait, va citer d'ailleurs 50 texte de l'Ancien Testament et fera allusion à l'Ancien Testament plus de 75 fois. Alors que quand on rentre dans le livre de Marc, on va n'en voir que 19 allusions de l'Ancien Testament. Parce que pourquoi? Parce que Marc écrit d'abord et avant tout à des Romains, à des gens qui vivaient à Rome. Les destinataires n'étaient pas les mêmes. D'ailleurs, on le voit déjà, comme on va le voir tantôt, au début du passage, du livre, il va parler de l'identité de Jésus et son approche est différente de celle des autres auteurs. Alors, plus important encore, si on regarde les quatre évangiles que comme une biographie de la vie de Jésus, on va manquer le message essentiel que les quatre auteurs tentent de nous livrer. L'enjeu central des quatre histoires de Jésus, des quatre évangiles, c'est la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Si on prend par exemple l'évangile de Jean, il ne couvre qu'une trentaine de jours de la vie de Jésus, et d'autres vont parler de d'autres parties, mais toutes vont acheminer vers la croix. Prenez les quatre livres ensemble, Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous mettez tout ça ensemble, vous avez 89 chapitres. Le tiers des chapitres vont couvrir la dernière semaine de Jésus à Jérusalem, lorsqu'il se dirige à Jérusalem et vers la croix, la crucifixion et sa résurrection. On pourrait presque dire que les quatre évangiles portent sur la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus avec de longues introductions. C'est ce que les quatre auteurs veulent nous aider à comprendre. Le message essentiel des quatre évangiles ne porte donc pas sur un code moral, sur un exemple, sur un modèle à suivre, comme certains le prétendent, ni sur la puissance miraculeuse. C'est sur le fait que vous et moi, nous avons péché contre le Dieu Tout-Puissant, trois fois saint. Nous avons fait le mal, nous nous sommes rebellés contre Dieu, nous avons blasphémé contre le Dieu de l'univers. Alors, on a un gros problème. On est pris. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu est venu lui-même pour régler le problème qu'on était incapable de résoudre et de régler. Et au lieu de nous juger pour l'éternité, alors qu'il était tout à fait en droit de le faire, il est venu payer le prix sur la croix afin de nous libérer et nous donner la vie éternelle à tous ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle. C'est ça le message de la Bible. Le reste, c'est secondaire. Ça nous montre à quel point nous étions perdus, ça nous montre la gravité de notre perdition et à quel point la solution de Dieu est extraordinaire. Jésus est extraordinaire. Êtes-vous d'accord avec moi? Au cours de cette série, l'Évangile de Marc, on va voir Jésus. Et on va voir que Jésus avait une royauté différente. Vous avez vu cette image, ce graphique qui a été préparé pour vous pour cette nouvelle série sur Marc. Vous avez remarqué deux choses vraiment intéressantes. Une contradiction, en fait. Vous voyez d'une part une couronne qui parle d'un roi, Jésus le roi. Et c'est comme ça que Marc va présenter Jésus, Jésus le roi. En même temps, on voyait l'image en arrière et nous voyons Jésus qui est à genoux, qui lave les pieds de ses disciples. Il lave ses disciples comme un serviteur. N'est-ce pas étrange? N'est-ce pas une contradiction? Voici un roi qui est là en train de laver les pieds de ses disciples. Voyez-vous, ce que nous allons voir à travers l'Évangile de Marc, c'est qu'on nous présente Jésus comme le roi serviteur. Vous en connaissez, vous, des rois serviteurs? C'est comme ça qu'on va présenter Jésus-Christ. Le roi serviteur. D'ailleurs, le verset thème de tout le livre de Marc se trouve dans Marc 10, 45, qui dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Maintenant, le livre de Marc va se diviser en deux parties. Vous avez les premiers huit chapitres, chapitre 1, chapitre 8, qui parlent de l'identité de Jésus. On le présente comme le roi des rois. Et chapitre 9 à 16 parle de son objectif qui est lié à sa mort et à la croix. Alors, deux gros morceaux dans le livre de Marc. Chez Marc, nous voyons un Jésus imprévisible, mais fiable, doux, mais puissant, plein d'autorité, mais humble, humain, mais aussi divin. Nous verrons le roi serviteur. Nous verrons qu'à travers les paroles de Jésus et ses actions, ses actes, on va voir que la vie de Jésus donne beauté et donne un sens à notre existence. Et notre prière, c'est qu'au cours de cette série, on espère que vous serez là pour toute la série, notre prière, c'est qu'au cours de cette série, nous puissions vouloir suivre Jésus davantage, car il est le roi que nous recherchons tous au fond de nous. Tournons ensemble, s'il vous plaît, dans Marc 1. On va commencer ce matin avec quelques versets. Marc 1, on va lire les 11 premiers versets pour l'instant. Plus tard, on lira 12, 13, mais pour le moment, on va lire les 11 premiers versets. Voici le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé. Tu as toute mon affection, toute mon approbation. » On va arrêter là pour notre lecture pour le moment. Marc commence en affirmant l'identité de Jésus. Il ne perd pas de temps là. Pour établir l'identité de Jésus. Et voici ce que Marc va faire. Marc va nous montrer qui est Jésus. Ensuite, il va nous montrer Jésus qui affirme son autorité sur toutes les sphères de la vie. On va voir ce matin ces deux aspects-là. Premièrement, qui est Jésus? Marc répond, il dit « Jésus est le roi, le Fils de Dieu ». Perds pas de temps, regardez le verset 1. Il commence son livre comme ça, c'est très direct. « Voici le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Alors Jésus est d'abord le roi. Fais pas de détour, il est direct. Jésus est le Christ, qui veut dire Messie et qui veut dire un personnage royal qui est oint. Jésus est le roi, il est le Messie qui viendrait établir le règne de Dieu sur la terre et sauver Israël dans un premier temps de tous ses oppresseurs et de ses problèmes. Ce ne serait pas juste un roi, mais c'est le roi. Deuxièmement, Jésus est le Fils de Dieu. Marc ne s'arrête pas là, il va plus loin. Il dit « Jésus est le Fils de Dieu ». Il affirme si clairement la divinité de Jésus. Jésus est Dieu. Regardez ce qu'il fait. Il va citer un passage qui vient de l'Ancien Testament dans le livre d'Ésaïe, un prophète, qui a fait cette prédiction il y a des centaines et des centaines d'années avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et il va citer cette prophétie d'Ésaïe. Il affirme que Jean-Baptiste est l'accomplissement de cette voie qui avait été annoncée et prédite des centaines d'années, qui allait préparer le chemin du Messie qui allait venir. Alors, Marc dit, Jean-Baptiste est l'accomplissement de la voie de celui qui appelle dans le désert. Lorsqu'un roi allait en voyage, on envoyait un messager juste avant pour préparer la route, enlever les nids de poules, si on veut, enlever les roches et tout ça, préparer pour que le chemin du roi soit le plus doux possible. Et c'est une image, ça devient une image pour ce messager qui est Jean-Baptiste, qui va venir prêcher, qui va apporter le message de Jésus et qui va préparer la voie au roi des rois qui allait venir, qui est Jésus-Christ. Maintenant, Ésaïe 40, verset 3, dit ceci. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. » Préparez le chemin de l'Éternel. Arrête. Négligeons pas ce petit détail, le mot « éternel » ici. Le nom de Dieu ici, employé dans Ésaïe, est Yahvé. Ce même nom qui avait été donné à Moïse, lorsque Moïse a demandé à Dieu, « Mais qui est-ce qui m'envoie? Qui, je veux dire, m'envoie? Quel est ton nom? » Et Dieu a dit, « Je suis Yahvé. Je suis celui qui suis. » Traduit en français, par l'Éternel. En d'autres mots, il vit tout le temps. Il n'y a pas de commencement, pas de fin. « Je suis l'Éternel. » Et dans la prophétie de l'Ancien Testament, ça dit que le messager va préparer le chemin de Yahvé. Mais Marc, ici, parle de Jean-Baptiste comme celui qui vient préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste est donc celui qui vient préparer le chemin de Yahvé, Jésus. Pour Marc, il n'y a pas de doute, Jésus est Yahvé. Il est le Dieu éternel. Il est clair que pour Marc, Jésus n'est autre que le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Dieu, le divin roi tant attendu qui sauverait son peuple. Marc nous fait comprendre que Jésus est l'accomplissement de tout ce que les prophètes bibliques avaient déjà dit, annoncé et désiré. Il est celui qui reviendra un jour pour régner et pour transformer l'univers tout entier. Après avoir annoncé Jésus ainsi, Marc le présente dans une scène qui est tout à fait saisissante, le baptême de Jésus. Tout à fait extraordinaire, les amis. Marc 1, verset 9 dit ceci, « À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. » Écoutez bien ceci. « Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Maintenant, que l'Esprit de Dieu soit comparé à une colombe, c'était vraiment inhabituel à l'époque du Nouveau Testament, sauf à un endroit. Voyez-vous, les Juifs, les rabbins ont traduit l'Ancien Testament qui était écrit en hébreu, ils l'ont traduit en araméen. Et d'ailleurs, dans les synagogues, quand on enseignait les Écritures parmi les Juifs à l'époque du Nouveau Testament, et quand on citait l'Ancien Testament, on le citait en araméen et qu'on appelle la traduction la Targum, le Targum. Maintenant, dans le Targum, c'est vraiment intéressant, dans la Bible araméenne, le seul endroit où l'on comparait l'Esprit de Dieu à une colombe était dans le récit de la création. Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. L'Esprit planait au-dessus de l'eau. Le verbe « planer » ici signifie dans l'original « battre des ailes. L'Esprit battait des ailes au-dessus des eaux. » Et voici comment les rabbins ont traduit ce verset-là. « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux comme une colombe. » Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voyez-vous, il y a trois entités dans le récit de la création du monde, dans Genèse. Dieu, son Esprit, et sa parole par laquelle il crée toutes choses. La même chose se produit maintenant alors que nous sommes au baptême de Jésus-Christ. Ils sont tous les trois présents lors du baptême de Jésus. Le Père qui est la voix, le Fils qui est la parole, on le voit dans Jean, et l'Esprit qui bat des ailes comme une colombe. Marc nous ramène à la création au début de l'histoire du monde. Et tout comme la première création était un projet de la Trinité, c'est-à-dire Dieu en trois personnes, Marc est en train de nous dire que la rédemption du monde, son secours et le renouvellement de toutes choses, qui commence maintenant avec l'arrivée du roi des rois, sont aussi un projet du Dieu trinitaire. Lorsque Jésus sort de l'eau, le Père l'enveloppe et le couvre de paroles, d'affection et d'amour. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » en même temps, le Saint-Esprit le revêt de puissance. Et qu'est-ce qui arrive? Regardez verset 12. « Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Voici ce qui arrive, c'est qu'après nous avoir montré que Jésus est le roi, le Fils de Dieu, Marc montre ensuite Jésus qui va affirmer son autorité sur toutes les sphères de la vie. Et ça commence où? Jésus affirme son autorité sur le monde spirituel. Marc met en parallèle l'Ancien Testament et la vie de Jésus. En Genèse, l'Esprit plane au-dessus de la surface des eaux. Dieu parle et le monde jaillit, l'humanité voit le jour et l'histoire commence. Qu'arrive-t-il ensuite? Satan. Qu'est-ce qu'il fait, Satan? Tente les premiers êtres humains, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. On arrive à Marc, on se retrouve devant la présence de Jésus qui sort de l'eau, l'Esprit se mouvant au-dessus de lui et Dieu parle. Une nouvelle étape commence pour l'humanité, la trajectoire d'histoire est modifiée maintenant et immédiatement le schéma se répète. Satan vient tenter Jésus dans le désert. Voyez-vous le parallèle? Marc ajoute un détail qui semble peut-être insignifiant pour nous, mais il dit « Jésus était avec les bêtes sauvages ». Pourquoi un tel détail? C'est un détail important pour les premiers chrétiens, surtout ceux qui allaient lire Marc, parce qu'au premier siècle, c'était exactement ce qui se passait. Les chrétiens étaient persécutés, ils étaient jetés aux bêtes sauvages. C'est une pratique courante à un moment donné. Alors, plusieurs chrétiens sont tentés de lâcher prise, de lancer la serviette, d'abandonner. Parce que vous voyez, lorsque ça va mal dans notre vie, lorsqu'on part à travers les épreuves, qu'est-ce qui arrive? Comme Jean-Baptiste, on commence à douter. On commence à être découragé. On veut lancer la serviette peut-être. Mais ce message est en train de nous rappeler que Jésus a passé par là. Il nous comprend. Il va nous aider. Il va nous donner la puissance qu'on a besoin pour passer à travers et avoir la victoire. Alors ne lâchons pas, collons-nous à lui. Amen. Ces premiers chrétiens voient Jésus affronter comme eux des dangers, des bêtes sauvages, mais en même temps, Jésus vit une relation spectaculaire avec Dieu. Es-tu dans le désert en ce moment? Tu sais, le désert, c'est un champ de bataille. La tentation a un visage. C'est un ennemi réel pour Jésus et pour nous. Il s'appelle Satan. Marc l'appelle Satan. Ce n'est pas un mythe. La Bible affirme clairement qu'il existe des forces du mal extrêmement complexes et intelligentes. Satan est leur chef. Et vous savez ce qu'il veut faire? Il veut nous éloigner de Jésus. Il veut nous éloigner de Dieu. Il veut nous empêcher de vivre cette relation extraordinaire avec Dieu. Il veut nous empêcher de grandir dans la foi et grandir dans notre relation avec Dieu. Et Satan n'arrête pas de nous tenter. Constamment, il va nous lancer des doutes, des sentiments d'accusation, de culpabilité pour nous écraser. Il revient constamment à la charge. Et malheureusement, on laisse trop souvent les mensonges du diable faire leur place dans nos cœurs parce qu'on n'ose pas faire confiance à Dieu et prendre les armes de Dieu et combattre et résister. C'est ce que les Écritures nous disent de faire. Dans Marc 4, 27, ça dit « Ne laissez aucune place au diable. » Tu comprends ça? Laisse aucune place au diable. Ça veut dire quoi? C'est quand tu commences à douter, quand tu commences à vouloir pécher, quand la tentation s'en vient forte, cours, fuis, résiste, dis non. Je veux glorifier Dieu. Je veux que ma vie honore Dieu. Je refuse. Et tu as le Saint-Esprit qui est en toi qui va te donner la puissance pour résister et combattre. Amen. Éphésiens 16, 10 dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres, les tactiques du diable. » Il est ratoureux. Tu ne le vois peut-être même pas venir, puis en ce moment, il est peut-être en train de t'influencer à t'éloigner du Seigneur. Jacques 4, 7 dit par contre « Résistez au diable. » Et quoi? Il va fuir. Résiste! Et il va fuir. Approche-toi de Dieu et lui va s'approcher de toi. Résistons, tenons ferme, parce que celui qui est en nous, nous dit 1 Jean 4,4, est plus fort que celui qui est dans le monde. As-tu compris ça? Dis-le à ton voisin, il a besoin. Jésus est plus fort. Dis-le à ton voisin. Ton autre voisin, l'autre bord aussi, il a besoin de l'entendre. Amen! Jésus est plus fort que celui qui est dans le monde. On le voit d'ailleurs dans le monde aujourd'hui, alors que la persécution frappe les églises, l'Église de Jésus-Christ, malgré les assauts du diable sur l'Église, malgré les persécutions, malgré les efforts pour stopper, arrêter et détruire l'Église, l'Église continue de grandir. Il y a de plus en plus de gens qui viennent au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu! Des milliers de personnes viennent au Seigneur Jésus. Pensons juste en Iran. Phénoménal ce qui se passe là-bas. L'Iran, hostile pendant des années à l'endroit de l'Église. Hostile. On jetait dehors des missionnaires. C'était illégal de parler de Jésus. On bannissait les Bibles. On a tué plusieurs pasteurs. Qu'est-ce qui arrive? La persécution des chrétiens en Iran avait pour but d'éliminer la petite église en Iran. Une petite poignée de main de croyants en Iran à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de chrétiens, mais au lieu de l'éliminer, l'Église en Iran affiche aujourd'hui la plus forte croissance dans le monde entier. Amen! Oui, amen! C'est Dieu qui fait ça. Donnons-lui une main. Amen! En dépit des hostilités, les Iraniens sont devenus le peuple musulman le plus ouvert à l'Évangile au Moyen-Orient. Deux facteurs pour ça, c'est que les gens sont de plus en plus désillusionnés en voyant toute la violence au nom de l'islam. Ça pousse les gens, ça incite les gens à remettre en question leur croyance. Il y a un deuxième facteur aussi, deuxième raison, c'est que les chrétiens, malgré la persécution, malgré des temps difficiles, malgré qu'ils perdent tout, continuent à prêcher, à proclamer le message de l'Évangile par la force et la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, et Dieu fait son œuvre. Le résultat, c'est qu'il y a plus d'Iraniens qui sont devenus des chrétiens au cours des 20 dernières années qu'au cours des 15 derniers, des 13 derniers siècles. Il y avait une poignée de main il y a quelques années, plus juste 500 croyants, 500 chrétiens évangéliques en Iran. Et aujourd'hui, on en compte plus de 1 million. C'est phénoménal. Il y a un grand réveil, surtout chez les jeunes. Plusieurs ont essayé de détruire l'Église de Jésus-Christ, mais celui qui est en nous est plus fort. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. On a besoin de se répéter ça. Tu as besoin de te répéter ça demain matin quand tu vas aller travailler à 8 heures. OK? Tu ne dis pas ça à ton boss, là, mais... Celui qui est dans le moins plus fort que toi, là, tu comprends? C'est pas trop les bonnes relations de travail, enfin, mais on comprend. Jésus affronte Satan, il livre un combat spirituel et il gagne. Il a vaincu le diable. Et toi aussi, tu peux le vaincre par la puissance de Jésus qui est en toi. Par ces deux versets, Marc est en train de nous rappeler qu'ici sur Terre, il existe un combat spirituel. Et vous et moi, on est engagés, que tu le veuilles ou pas, tu es engagé dans ce combat spirituel. Tu as beau fermer les yeux, tu vas fermer les oreilles, pas voir, pas regarder, tu es dans un combat spirituel. Nous avons besoin de prendre les armes, nous avons besoin de résister au diable et de nous coller au Seigneur, parce que la victoire se trouve là, à ses pieds. Jésus affirme donc son autorité sur le monde spirituel alors qu'il est tenté par le diable, et il remporte la victoire. Jésus affirme ensuite son autorité sur ses disciples. Dans Marc, alors qu'il appelle ses disciples à tout abandonner, leur commerce, leur métier, leur compagnie, pour le suivre en mission, pour apporter la bonne nouvelle de Jésus. Jésus affirme son autorité sur la parole de Dieu. Marc 1:21 dit ceci, « Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappés par son enseignement, car il enseignait avec autorité. » Autorité, et non pas comme les spécialistes de la loi. Marc se sert du mot autorité ici dans le sens de hauteur. Jésus est l'auteur. Et Marc va franchir une autre étape en dévoilant l'autorité de Jésus, mais cette fois-ci, il affirme son autorité sur les règnes physiques. Et on voit ça dans les passages qui suivent où il y a des guérisons après guérisons. Et des gens, on pense justement à Marc 1:29, en sortant de la synagogue, ils se rendaient avec Jacques et avec Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitte. Et Jésus a fait plusieurs miracles comme ça. Et Marc va continuer tout au long des premiers chapitres de son évangile à nous donner preuve sur preuve que l'autorité de Jésus touche tous les domaines de la vie. Je vous parlais du réveil qui se passe en Iran. Et les gens se tournent vers Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le roi que nous recherchons. Je pense notamment à Kamran. Kamran, qui était un homme violent, il vendait de la drogue, vendait des armes. Et un jour, un de ses amis lui donne un Nouveau Testament. Alors, musulmans, pays musulmans, sévères, à l'endroit des chrétiens, hostiles, persécution. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence pendant 5 jours, commence à lire le Nouveau Testament chez eux pendant 5 jours. Il n'arrête pas. Il lit. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est bouleversé par Jésus. Et il se convertit à Jésus-Christ. Un autre monsieur du nom de Reza, cette fois-ci un homme qui rêvait de devenir ayatollah, un chef, un leader chez les musulmans, dignité religieuse de l'islam chiite. Un jour, imaginez, il est en train d'étudier dans un séminaire iranien, islamique. Il est dans un séminaire théologique islamique. On étudie l'islam. On est là. Il y a une bibliothèque et tout ça. Et ça donne, il est en train de chercher des livres, etc., de l'islam sur l'islam pour étudier, devenir un expert, afin de devenir un jour un leader. Imaginez qu'un chrétien a eu assez de courage pour laisser un Nouveau Testament sur place, dans la bibliothèque du séminaire islamique. Il ramasse le Nouveau Testament, commence à le lire, tombe en amour avec Jésus, se convertit à Jésus. Et vous savez quoi? Il est devenu un implanteur d'église. Une autre personne, cette fois-ci, du nom de Fatima. Fatima, les souvenirs qu'elle garde de son enfance et qu'elle se faisait violer à répétition par ses frères. Elle a été vendue en mariage à l'âge de 11 ans. Et l'homme qu'elle a marié l'a abusée, violée, et il l'a divorcée à 17 ans. Et elle est retournée chez son père, où à nouveau elle se fait violer à plusieurs reprises. Elle s'en va, elle quitte la maison, elle est dans la rue, et à un moment donné, elle entend quelqu'un parler de Jésus. Imaginez, là-bas. Elle écoute le message de Jésus-Christ et va se convertir, devient chrétienne. Elle va grandir dans sa foi. Et là, elle fait la rencontre d'un jeune homme, un chrétien qui va la marier. Les deux vont chercher une formation parce qu'ils ont à cœur d'implanter des églises. Ils veulent propager le message de bonne nouvelle. Alors, les deux s'en vont dans un séminaire biblique chrétien pour avoir une formation comment implanter des églises et propager le bon message de l'Évangile. Pendant sa formation, elle a à cœur de retourner dans la maison où elle a été élevée, abusée, violée, pour leur parler de l'amour de Jésus. Elle retourne à la maison avec son mari, leur parle de l'Évangile. Et là, le Saint-Esprit a touché les cœurs de sa famille. Et sa famille s'est repentie, brisée, s'est repentie, se sont excusées. Puis sont venus au pied de la croix demander pardon à Dieu pour tout le mal qu'ils avaient fait. Savez-vous quoi? Ils sont devenus chrétiens, sont convertis. Et la première église qu'ils ont implantée se trouve dans la maison où elle a été abusée quand elle était jeune. N'est-ce pas phénoménal? N'est-ce pas beau ce que Jésus fait dans la vie des gens? C'est pour ça que Jésus dit, « Suis-moi, suis-moi, parce que je suis le roi que tu recherches, parce que j'ai l'autorité sur toutes choses et pourtant je me suis humilié pour toi. » Suis-moi parce que je suis mort sur la croix pour toi, même lorsque tu vivais dans l'erreur, tu étais rebelle et blasphémateur. Suis-moi parce que j'apporte une bonne nouvelle. Suis-moi parce que je suis ton véritable amour, ta vraie vie. Et j'ai fait exactement ce que je demande à mes enfants. Quand il a demandé à Jacques et Jean de quitter leur père dans leur barque pour le suivre, il avait lui-même quitté le trône de son père, qui était si grand, si infini, si gracieux. D'ailleurs, plus tard, il sera arraché la présence de son Père quand il sera pendu à la croix. On peut suivre Jésus, car sa beauté, c'est que sa royauté n'est pas écrasante. Il a été écrasé pour toi et pour moi, afin qu'on puisse trouver un abri dans ses bras. Alors suivons Jésus, bien-aimés. Collons-nous à lui, car il est le roi qu'on recherche tous au fond de nous. Amen. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout cœur, te louer, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Te remercier parce que tu as démontré tellement d'amour envers nous. Toi, tu as été écrasé pour nous. Merci, Jésus. Accorde-nous cette grâce de pouvoir nous approcher de toi et grandir en toi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.